Bonjour à tous. Emmanuel Macron ouvre la porte à un référendum pour modifier la Constitution. Après 4 heures de discussion hier avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, le chef de l'État a accepté de demander l'avis des Français pour inscrire dans la Constitution la défense du climat et la préservation de l'environnement. Il faudra pour cela et avant cela que le Parlement approuve cette réforme constitutionnelle. Parallèlement à cette annonce hier, une partie des membres de la Convention ont demandé des décisions fortes et contre et concrète. Fini le confinement aujourd'hui, voici le couvre-feu. À partir de 20h ce soir et jusqu'à 6h du matin, tous les jours jusqu'en janvier. Les attestations ne seront donc nécessaires que la nuit. Le protocole sanitaire dans les EHPAD est également allégé. Et puis les mineurs peuvent reprendre leur activité sportive en intérieur. Mais un grand absent manque à ce déconfinement. Le monde de la culture. Les cinémas, théâtres et musées doivent rester confinés jusqu'au 7 janvier au mieux. Une douzaine de manifestations pour dénoncer cette mesure sont prévues partout en France aujourd'hui. 3 mois et demi après son ouverture, le procès des attentats de janvier 2015 a pris fin hier devant la cour d'assises spéciale de Paris. Avec les dernières plaidoiries de la défense et les derniers mots des accusés, la cour va maintenant délibérer. Cela va durer 2 jours. Elle doit rendre son verdict demain à 16h. Aux États-Unis, Joe Biden sera bien le successeur de Donald Trump. Le collège électoral a officialisé la victoire du candidat démocrate hier soir. Joe Biden, 78 ans, ancien vice-président de Barack Obama, deviendra donc le 46e président des États-Unis le 20 janvier prochain. Notez enfin qu'outre-Atlantique, les aides économiques tant attendues par des millions d'Américains et des petites entreprises pourraient arriver. Des élus républicains et démocrates au Congrès ont en tout cas présenté hier une proposition commune. Ils appellent les leaders du pays à la faire adopter avant Noël.
Mais à quoi ressemble donc l'univers des romans SF de l'écrivain Philippe K. Dick ?
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Eh bien, on y trouve des singes qui prédisent l'avenir, des robots qui ont tout pour être humains ou des virus qui empêchent les gens de se voir. Ah non, pardon, ça, j'ai dû le lire dans la presse. Toujours est-il que de Philippe K. Dick, eh bien, nous parlons dès lundi dans la compagnie des œuvres.
Du lundi au jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Entendez-vous l'écho s'échappe dans la France de la Belle Époque lorsque les écrivains célèbrent le triomphe du capitalisme et de la modernité.
Sur France Culture, Tiphaine de Rocchini.
Avec Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, on se glissera dans les intérieurs bourgeois, puis on déambulera dans les expositions universelles en compagnie de Jules Verne, avant de s'intéresser aux oubliés du progrès grâce à une autre romancière, Marguerite Audoux.
Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Et comme tous les jours de la semaine à 6h03, c'est l'heure de retrouver Bruno David avec Le Monde Vivant, une chronique consacrée ce matin au diable de Tasmanie.
Associer un animal au diable, quoi de plus naturel au Moyen-Âge, que l'on pense au bouc, serpent, chauve-souris, crapaud, chouette, comme au chat. Ce qui est rarissime, c'est lorsque l'allusion diabolique est non seulement bien plus tardive, mais explicite. Même si vous ne connaissez pas la Tasmanie, vous avez sans doute entendu parler du diable de Tasmanie. Lorsque l'on aborde la Tasmanie, on réalise à quel point l'animal est un fétiche local. Il est partout, sur les porte-clés, les tasses, les autocollants, les t-shirts, les noms d'équipes sportives, la monnaie. Pour bien comprendre, il faut passer en revue quelques facteurs déterminants. Tout d'abord, la Tasmanie est une île. Chez tous les humains, habiter une île renforce l'identité face aux non-insulaires. En plus, une île du bout du monde, une île modeste d'environ 300 sur 400 km, située à la pointe sud de l'Australie. Ensuite, le diable de Tasmanie est endémique. Non seulement il est 100% local, mais il est en danger. Depuis 1996, la moitié des diables a été décimée par une tumeur faciale due à un virus et qui évolue en cancer. Les diables se la transmettent lors de leur contact et les Tasmaniens sont extrêmement mobilisés pour préserver des populations saines. Troisième et dernier facteur, les Tasmaniens ont conscience de la fragilité de leur faune et leur sentiment écologique est exacerbé. Une attitude qui ne vient pas de nulle part. Les Européens qui se sont installés en Tasmanie à partir de 1803 ont été des éleveurs de moutons et des bûcherons. Ils ont exercé de fortes pressions sur les environnements forestiers et la Tasmanie a été le théâtre d'extinctions retentissantes, comme celle du thylacine, le tigre de Tasmanie. Mais qui est vraiment ce fétiche diabolique ? Et au fait, pourquoi le diable ? Sarcophilus harrisi est un marsupial comme le kangourou, mais un marsupial à quatre pattes de la taille d'un petit chien. Sarcophilus signifie « qui aime la viande ». La bête est carnivore, ou plutôt nécrophage. Elle cherche les cadavres durant la nuit. Sur les routes Tasman, on peut en découvrir dans le faisceau des phares à la recherche d'une bête écrasée. Ce petit animal est noir avec une bande blanche sur la poitrine. Mais ce n'est pas sa couleur qui lui vaut ce nom diabolique. Certes, la bête est petite, pas du tout imposante, mais elle émet des rugissements hors de proportion qui retentissent dans la nuit. En un mot comme on sent, le diable de Tasmanie fait un boucan du diable. Ces rugissements disproportionnés ont pour but d'intimider les rivaux et de les évincer du territoire. Ils ont probablement effrayé les premiers Européens qui les entendirent sans les voir, cachés dans l'obscurité. Ils y virent, comme au temps obscur du Moyen-Âge, un signe diabolique. Aujourd'hui, le diable est un énervé qui fait un foin de tous les diables. Je fais ici allusion à Taz, adversaire épisodique de Bugs Bunny, et qui est vraiment très mal élevé. En réalité, les diables sont beaucoup plus gentils.
Heures, 7 heures, vous écoutez Les Petits Matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast, avec aujourd'hui l'écrivain et essayiste Pacôm Thielman. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin Alain Joubert.
Le Réveil culturel.
Aujourd'hui, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or, de Pacôm Thielman, sorti récemment chez Massot Éditions. Ce n'est pas un essai cette fois, mais le roman d'un essayiste pop culture qui s'essaye au récit autobiographique. Ce n'est pas de l'autofiction pour faire littérature, mais une démarche introspective dans un beau désordre chronologique. Et tout ça pourquoi ? Bonjour, Pacôm Thielman.
Bonjour.
Alors, dévoiler les moments les plus pénibles de sa vie amoureuse, sexuelle, intellectuelle, professionnelle, c'est ce que vous faites dans votre livre. Vous racontez votre labyrinthe des malheurs, pour reprendre votre expression, Pacôm Thielman. Écrire sur ses douleurs les plus vives, établir un recueil clair de ses épreuves passées, pour mieux questionner les grands maîtres. Voilà, c'est ce que vous faites. Enfin, mais que pensent les grands maîtres de nos petites misères ? Première question. Et deuxième question, qui sont les grands maîtres de Pacôm Thielman ?
Pendant que je l'écrivais, j'y pensais pas. Mais une fois que j'ai terminé, je me suis dit que l'inspiration première devait venir de la musique soul. En fait, s'il y a bien une musique qui a compris des figures qui pour moi sont des maîtres, comme Otis Redding, et qui ont passé leur temps à chanter leur malheur, mais le chanter leur malheur pour donner beaucoup de joie, je me suis dit que ça devait être probablement ça qui fait que lorsque est venue l'idée, qui n'est pas venue de moi d'ailleurs au départ, hein, c'est une proposition de l'éditrice Ariane Molcou, d'écrire un livre...
autobiographique.
Pas, ouais, qui soit pas une, enfin,
qui soit un essai, parce qu'on vous connaît comme un essayiste, travaillant plutôt sur la pop culture.
J'ai eu envie pas m'attarder sur des trucs qui seraient les moments joyeux de mon existence, parce que j'en ai vu quand même, ouais, un certain nombre. Oui. Mais je trouvais qu'ils étaient pas, porteurs. Ils étaient pas porteurs de connaissances, déjà, pas suffisamment. Et puis aussi le fait que si j'avais eu à lire l'autobiographie de ma voisine du dessus ou de la personne, je sais pas quoi, de mon épicier par exemple, j'aurais pas forcément été intéressé qu'il me raconte à quel point il était heureux d'avoir rencontré sa femme, heureux d'avoir fait des enfants, heureux ceci ça. Ça m'aurait probablement saoulé assez vite. Par contre, j'aurais été très intéressé de savoir qui pour lui avait été le plus dur dans sa vie et qu'est-ce qu'il en avait tiré. Qu'est-ce qu'il avait réussi à en tirer pour les autres ? Parce qu'il y a peut-être une dimension à ce moment-là vraiment partageable. C'est-à-dire, fondamentalement, dans ces épisodes-là, dans les épisodes où on traverse le labyrinthe, hein, le labyrinthe de malheur, où on voit scintiller devant soi presque les lumières négatives, quoi, de ce qui, en gros, va dessiner notre vie. Là, on a quelque chose qu'on peut donner aux autres, vraiment.
Le malheur est formateur pour vous ?
Il a été en fait très formateur et pour mon travail et puis pour moi-même et puis mes joies. En fait, bon, bah quoi, c'est le sujet du livre, quoi. Mes joies sont nées de ces malheurs, c'est-à-dire sont nées du moment où de ces malheurs j'arrivais à en faire quelque chose d'autre.
Vous le dites très bien d'ailleurs, sans malheur, pas de bonheur, mais pas comme tellement. Et si on s'attardait d'abord, avant de rentrer dans votre univers, dans ce livre, dans votre vie, si on parlait du titre, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Le titre de votre livre fait référence bien sûr à Baudelaire. Baudelaire s'adressant à Paris, écrit dans un poème inachevé, tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or. Or longtemps vous étiez persuadé qu'il avait dit de la crasse.
Oui.
Baudelaire parlait de Paris, là oui. Vous parlez de la vie en général.
Oui, tout à fait, voilà, c'est ça, absolument. Oui, c'est j'ai étendu, c'est un pari cosmique. C'est le pari du mauvais démiurge. C'est le cosmos comme une espèce de gigantesque ville de Paris.
Dans votre récit autobiographique, en même temps qu'une quête des guides spirituels, des maîtres pour mieux voir, mieux être, mieux faire, mieux savoir, mieux vouloir, mieux aimer, l'entendez-vous, vous pensez que seuls les poètes savaient. Nerval, Baudelaire, on en a parlé, Henri Rimbaud, Artaud avaient été vos principaux repères. Maintenant, vous cherchez chez les mystiques, chez les philosophes, dans l'Antiquité, mais aussi dans la pop culture, beaucoup dans la pop culture, vous avez dit que la musique noire était pour vous très importante pour comprendre votre cheminement.
Oui, quand j'avais 16-17 ans, c'était presque exclusivement les poètes. Quoi, j'avais déjà les Beatles, j'ai toujours eu les Beatles. Et puis la bande dessinée aussi. Disons que ce qui a beaucoup changé, ce qui est arrivé, c'était la découverte des textes de ceux qu'on appelle les gnostiques, enfin de ceux que les chrétiens ont appelés les gnostiques. Moi, j'ai repris le nom que Jésus leur donne, les 100 rois.
Les 100 rois, oui.
En fait, c'est venu par une intrication d'événements, un petit labyrinthe que je raconte dans le livre. Enfin, en gros, c'est vraiment John Lennon et Philip K. Dick qui m'ont tous les deux mis sur cette piste à travers des écrits, hein, je précise, hein, je suis pas si vieux que j'aurais pu les croiser, mais et ça a changé beaucoup de choses parce que ce qui les distinguait évidemment c'est d'avoir pensé le monde comme la création d'un mauvais démiurge. Donc à ce moment-là, le rapport qu'on a avec le monde, avec la vie, est complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de récompense d'une divinité toute-puissante. On n'attend pas ça. On n'attend pas qu'un dieu seigneur, autoritaire, mécontent de nous, jaloux, nous dicte notre conduite. Mais on essaye de s'accorder à des principes qui sont celles d'une divinité à la fois extrêmement aimante, mais extrêmement faible en ce monde. Peu, voire pas capable d'agir autrement que à l'intérieur, dans le cœur. Du coup, c'est un renversement complet des attentes, si tant est qu'on a des attentes par rapport à la vie. On ne regarde plus le monde pareil, on regarde plus les hiérarchies de la même façon. Et ça, bon, ça avait une résonance pour moi, parce que si je m'intéresse à ce qu'on appelle la pop culture, pour moi, quoi, Shakespeare, c'est de la pop culture, donc je sais plus aujourd'hui si je dois vraiment le distinguer. Mais je dois distinguer, je dirais, une chose, c'est que c'est la culture non académique. Ce qui m'intéresse le plus, la culture non académique, c'est-à-dire c'est une culture dont les bases sont populaires de toute façon. Qu'elle soit populaire au XVIe siècle, comme Shakespeare ou Rabelais, qu'elle soit populaire, mais si elle est populaire aujourd'hui, alors c'est où elle se trouve. Elle s'est trouvée pendant longtemps dans la science-fiction, dans ce qu'on appelle la musique pop, en tout cas dans toutes ses variations, parce que la musique soul aussi est une musique éminemment populaire. Elle peut se retrouver dans les séries télévisées.
C'est romantique comme idée, mais comment ça vous aide? Comment ça vous structure? Comment cette culture pop peut devenir pour vous mystique, pas comme tellement.
Dick le dit autrement, mais en fait, c'est son rêve obsessionnel, comme quoi, on va dire le message, la vérité du monde se retrouverait dans un fascicule, comme il faisait des fascicules de SF quand il était très jeune. Il avait ce rêve-là. Il avait un fascicule où il y avait écrit en gros, l'empire n'a jamais pris fin, et c'était un fascicule qui allait être un fascicule de science-fiction, mais dedans il y aurait les messages de la divinité. Et puis ensuite, dans plein de ses romans, il va développer ce genre d'idée, comme dans Ubique, où c'est même à travers des publicités ou des produits qu'on achète chez l'épicier, qu'il va y avoir des tout petits messages de la divinité qui sont comme des messages qu'elle essaie de faire passer à travers les barreaux de la prison du monde. Et donc, du coup, c'est une quête, en fait. Il n'y a pas de certitude là-dedans. C'est des hypothèses de travail. C'est à partir de ça, on peut essayer de trouver quelque chose. Le plus important, c'est qu'il y ait un raccordement qui puisse se faire entre soi-même et ce qu'on étudie. Un raccordement ou, on va dire, une relation d'amour. Et dans cette relation relation d'amour, il va pouvoir se dire des choses à la fois sur ce qu'on aime et à la fois sur ce qu'on est.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Says gonna save the human race. He laughs along as he climbs to fame. Now what's his name?
Banana.
That's me and I'll show you the light. I've got the answers and they're alright. Cause I'm divine and you can be the same. What's my name?
Mon invité ce matin, Pacom Thielmont, raconte dans son récit autobiographique, édité par Massot, « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or » qu'il en a marre d'être traité de gourou. C'est ce que vous dites, je suis fatigué du qualificatif gourou. Dans un monde où les États, la presse et l'économie sont dirigés par des gourous, je trouve injuste de devoir l'assumer ou le supporter en silence. Alors si vous devez l'utiliser encore une fois, si vous le faites parce que ça vous amuse, parce que je porte la barbe, parce que je vous fais penser à un ogre ou parce que je vous agace, je vous prierai d'ajouter le mot « banane » derrière, comme dans la chanson de Kevin Ayers. Je suis un gourou banana, qu'on vient d'écouter.
Gourou banana.
Longtemps, on vous a pris pour un gourou.
En fait, disons que c'est un qualificatif qui a commencé dès que j'avais, mettons, 20 ans, 21 ans. Donc maintenant, ça fait plus de 20 ans. Mais ça m'intéressait de réfléchir à cette question-là. Et en fait, ce à quoi je suis arrivé, c'est que la question du gourou, elle est extrêmement brûlante, en fait, aujourd'hui. Non seulement parce que on est dans une période, en tout cas, qu'il n'y a pas de guide au sens propre, des guides traditionnels. Parce que le gourou au sens traditionnel, moi, j'ai que du respect pour eux. Si c'est les gourous indiens, évidemment, je suis pas là pour dire c'est une insulte. Je le trouve, le qualificatif, extrêmement déplacé parce que j'ai ni l'ambition, ni les capacités, ni la qualité d'âme pour en devenir un. Et puis, certainement pas, en plus, les pratiques. Mais, par contre, dans la version la plus courante, le gourou, c'est un arnaqueur. Et c'est quelqu'un qui abuse de la crédulité des autres. Et il a un certain nombre de... On va dire, il y a un certain nombre de traits de son caractère ou de son mode de vie... Vous voyez, il vit en général en communauté. Moi, je prise ma solitude, mais vraiment tellement. Ouais. En général, il abuse, on va dire financièrement ou sexuellement, des personnes qui sont autour de lui.
Souvent seul.
Comme je suis souvent seul, normalement, c'est pas le cas. Mais surtout, à part vendre des livres, je demande pas d'argent. Donc tous ces trucs-là, ça me semblait lourd. Mais je comprenais derrière qu'il y avait une angoisse sur l'idée qu'il y avait des mauvais gourous un peu partout. Et puis quand on y réfléchit, réfléchit fondamentalement le fonctionnement managérial, entrepreneurial actuel à quelque chose de la parole du gourou, parce que c'est tout ce qui est de l'ordre des mots-clés qu'ils utilisent, de cette parole qui semble complètement déconnectée de la réalité, qui fonctionne comme des mantras.
Ça
en fait.
Ça n'existe pas un bon gourou, c'est-à-dire quelqu'un qui nous emporte dans son monde, fait de d'auteurs de science-fiction, de metteurs en scène, de culture pop, de musique, ce que vous faites, pas comme Tillemont.
Oui, bah ça c'est, on va dire, c'est plus de l'ordre de... Moi, j'aime beaucoup les figures d'enchanteurs. Je prétends pas être ça non plus, quoi. Mais disons que c'est cela que je vois avec admiration. Bon.
Êtes-vous un influenceur, par exemple, comme Tillemont?
Ah oui, ça, ce terme qui renvoie à la façon dont ça fonctionne sur les réseaux sociaux.
Vous êtes très présent.
Oui, je suis très présent sur les réseaux sociaux.
Vous appelez d'ailleurs ça la Facebookerie.
Oui, la grande Facebookerie. Ouais. Bon, il fallait lui donner un nom un peu jarriesque. vous savez, c'est Jarry, il appelait à peu près tout ce qui était dans sa vie, que ce soit des endroits où il allait manger ou là où il habitait, grande quelque chose. Donc, la grande Chasublerie, c'était sa maison. Écoutez, c'est difficile de se définir. J'essaye de pas me définir, mais j'ai rien contre, en fait, l'idée d'être quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui fait traverser des choses, qui propose des choses. Et j'aime beaucoup le travail sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas seulement un truc où on essaye de parler des choses qu'on aime, mais c'est aussi, pour moi, la grande Facebookerie, c'est une sorte de bureau des hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a des textes que je teste, en fait, dessus. Je balance des morceaux de texte, des choses en cours. Je vois comment les gens réagissent. Je vois à quoi ils le raccordent. Ça me permet d'aller faire des recherches. En fait, je fais travailler mes amis de la grande Facebookerie. Peut-être que je devrais les payer.
Il est beaucoup question aussi de vos états d'âme dans ce premier récit autobiographique, pas comme Tillemont, de vos états d'âme, de vos échecs, des petits bonheurs sur fond de grands drames. Des fois, c'est le contraire. et surtout, de votre manière d'être ailleurs, absent ici, en 2002 par exemple, alors que vous pourriez vous réjouir de visiter le Japon avec votre compagne, vous déprimez, vous êtes persuadé que vous êtes un écrivain raté, et vous ne rêvez que d'une seule chose, une obsession, c'est de tuer un présentateur de télévision. Alors là, quand vous racontez ça, pas comme Tillemont, c'est quoi? C'est la fiction qui s'invite dans votre récit autobiographique?
Ah non, c'est tout à fait vrai. Bien, hélas, la fiction s'invite dans ma vie peut-être à ce moment-là, oui. C'est-à-dire que c'est un moment où je suis avec ma compagne, elle est japonaise. Donc à ce moment-là, j'entends beaucoup le japonais. Donc ça crée probablement une forme d'étrangeté dans mon quotidien. Je suis chez des amis à elle, ils discutent entre eux, donc du coup, évidemment, mon esprit part un peu, se perd, se focalise sur l'émission de télé qui est en train de passer. Le pauvre présentateur de cette émission, qui est un présentateur d'émission culinaire, je vois que vous avez pas dit son nom, peut-être que mais on peut le dire, quoi, parce que je veux aucun mal en réalité. C'est un mec qui s'appelle Masaki Sakai, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, mais sur le moment qui est en train de présenter une émission culinaire, et je suis persuadé, je sais absolument pas pourquoi sur le moment, je suis persuadé en fait que ça y est, c'est comme une révélation, je sais que je vais tuer cet homme. Et que tous les signes de ce que je vois autour de moi m'indiquent que ça va être malheureusement mon lot, que ça va, c'est ça qui va m'arriver, et que je vais voir les, de toute façon tout ça va s'éclairer les jours qui vont suivre. Je trouverai l'arme, je trouverai son adresse, tout ça me sera plus ou moins donné par des signes que je vais trouver sur le chemin, sur ma route.
Et vous vous rendez compte que vous donnez autant d'arguments à ceux qui pensent que vous êtes un gourou à la manière de Charles Manson quand vous écrivez ça, comme Tillemont.
Mais évidemment, oui, je m'en rends compte. Je me rends bien compte du problème. j'essaye d'expliquer aussi, tout ça, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que ça a eu lieu. Alors, ça a eu lieu parce que j'étais obsédé par Mark David Chapman, l'homme qui a tué John Lennon, par le fait que lui-même était sur une espèce de a eu son espèce de labyrinthe de signes qui l'a amené à ça, par l'idée en fait qu'il y a une espèce de très grande injustice dans ce monde, qui est une injustice structurelle, c'est-à-dire qu'il peut pas exister un John Lennon s'il n'y a pas des milliers de Mark David Chapman pour l'aimer, que c'est certainement pas ce que John Lennon voulait, mais que de toute façon c'est comme ça que ça se donne, et que donc du coup on se retrouve de toute façon dans une situation, si on est dans une situation de création, dans une situation qui est beaucoup trop inégalitaire pour, on va dire, mes propres idéaux, mon horizon de vie. Moi, j'ai un horizon de vie où si je partage quelque chose, parmi mes principes, il y a le principe d'une égalité entre les hommes. Et le fait qu'il y ait des personnes qui s'extraient de cette condition-là, au moins par le fait qu'ils sont soudain admirés par d'autres, est quelque chose d'assez difficile à supporter. Alors moi-même, je suis fan, hein. Je suis fan de beaucoup, beaucoup de gens. Je suis fan de Lennon, je suis fan de Zappa, je suis fan d'un grand nombre de musiciens, cinéastes, écrivains, etc., etc. Et dans mon quotidien, ça me dérange pas du tout. Enfin, je suis pas en train de les jalouser. Mais je comprends qu'on puisse les jalouser. Et soudain, je jalousais quelqu'un dont j'avais rien à foutre. Mais c'est presque comme si mon esprit ou quelque chose dans mon esprit voulait me montrer comment ça fonctionnait. C'est-à-dire comment on pouvait passer de l'admiration, de la fascination à la détestation.
Est-ce que vous avez une raison pour expliquer ces états d'âme, votre côté passionnel, cette envie de vivre le malheur parce que vous savez que c'est au bout du malheur que vous allez pouvoir rencontrer peut-être ce moment fugace qui est le bonheur ou qui est le plaisir et la guerre de l'âme, parce que vous terminez justement ce récit pas comme tellement en disant qu'il faut la mener cette guerre de l'âme. Alors, la guerre de l'âme, c'est très beau, mais ça veut dire quoi?
Alors ça veut dire que en fait, si on suit l'un des 100 rois qui s'appelle Basilide, il y a deux âmes en nous. Il y a deux âmes en nous. On n'a pas qu'une âme, on a deux âmes. On a notre âme et on a une âme qui a été placée en nous par le mauvais dieu. Et c'est une âme qui s'appelle l'âme adventice. Cette âme adventice, c'est comme une sentinelle de ce mauvais démiurge. Et c'est celle qui nous fait chuter. Et c'est une explication que je trouve beaucoup plus intéressante que l'explication, on va dire, que les chrétiens ont du péché originel. Chrétien ou enfin bon quoi monothéiste en général d'ailleurs parce que c'est quelque chose que je crois est inscrit enfin bon je connais pas assez le judaïsme ni l'islam pour aller m'avancer sur leur interprétation de cette notion mais je peux dire juste que les Basilides répondent en tout cas à ce moment-là à l'idée que s'il y a du mal en nous ou s'il y a des choses en nous qui nous font chuter ou qui nous font faire du mal ou qui nous font agir tel qu'on ne veut pas c'est suite à cette vieille histoire du péché originel de Adam et Ève et qu'on porterait tous et donc de toute façon tout homme est nécessairement mauvais, ou nécessairement a beaucoup de mal en lui. L'interprétation des 100 rois, qui serait presque plus une sorte de pré-rousseauisme, d'une certaine façon, même si je veux pas non plus caricaturer la pensée de Rousseau, qui est une pensée très complexe, ni celle des 100 rois, ce serait celle de cette âme sentinelle faite pour nous faire tomber, et faite pour nous faire aimer ce qu'on n'aime pas, ou vouloir ce qu'on veut pas. Et donc nous entraîner, on va dire, sur toutes ces voies de garage ou sur toutes ces pentes, et ça, je trouvais ça très intéressant. C'est-à-dire que s'il y a une lutte à avoir en soi-même,
C'est entre le yin et le yang.
Tout à fait. Et donc c'est pour ça, le terme de guerre de l'âme renvoie à ça.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci Pacom Thielman d'être passé ce matin pour nous parler de votre récit autobiographique, vous l'essayiste plutôt pop culture. Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or, c'est le titre.
Merci Toufik.
Dans un instant, les informations, tout de suite après le journal des idées, et puis les enjeux internationaux, les petits matins sur France Culture. Merci d'être de plus en plus fidèles à nous. On se retrouve demain à la même heure.
Culture, l'esprit d'ouverture.
Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
Les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes dissèquent notre cœur et ses tourments entre plaisir du texte et langage qui se frotte contre la peau. Attente, je t'aime, jalousie, scène de ménage, quatre fragments à écouter les yeux fermés.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
En écho au débat provoqué en France par la loi Sécurité Globale et la multiplication des révélations de violences policières, nous vous proposons cette semaine une nouvelle série sur le maintien de l'ordre.
Culture Monde, Florian Delorme.
On va se demander comment, ailleurs dans le monde, fonctionnent les polices et le rapport qu'elles entretiennent à l'usage de la force. Depuis la réforme des polices aux États-Unis jusqu'aux dérives de la police nigériane, en passant par l'utilisation de l'institution policière à des fins politiques, sans oublier évidemment l'Europe, où il y a peut-être quelques pays dont on pourrait s'inspirer, même si la situation est loin d'être parfaite.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Circuler sans attestation, c'est possible dès aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français, mais jusqu'à 20h dernier carat. Le point sur ces changements dans un instant, alors que les professionnels du monde de la culture se mobilisent partout en France aujourd'hui. Leurs établissements sont toujours fermés. Dans cette édition, les derniers mots de la défense au procès des attentats de janvier 2015. Fin de ce procès hier, verdict attendu demain après-midi. Nous vous détaillerons ensuite le plan de la Commission européenne pour mieux réguler les plateformes Internet. Et puis nous irons en Russie. Après une enquête de médias de plusieurs pays, elle détaille cette enquête comment le FSB a bien empoisonné l'opposant russe Alexei Navalny. La deuxième phase du déconfinement débute donc aujourd'hui, mardi 15 décembre. Plus de liberté de circulation tout en préservant les gestes barrières. Qu'est-ce qui change exactement, Diane Berger ?
Tout d'abord, c'est la fin du régime des attestations. Elles ne seront plus nécessaires pour se promener, se rendre au travail ou faire des achats. Il devient donc de fait possible de changer de région ou de retrouver ses proches, mais en journée seulement. En effet, le couvre-feu est de retour, cette fois à partir de 20h sur toute la France et jusqu'à 6h du matin. Les seuls déplacements autorisés, ce sont les trajets pour se rendre ou revenir de son travail, ceux pour motif de santé, pour motif familial impérieux ou pour participer à des missions d'intérêt général, les maraudes par exemple, et enfin pour promener son animal de compagnie. Passé 20h, impossible donc de sortir prendre l'air, d'aller courir, de faire des achats ou de se rendre à un dîner. Une seule exception, le 24 décembre, pour le réveillon de Noël, le couvre-feu sera en vigueur en revanche au nouvel an. Et les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle, les musées, eux vont rester fermés. Il y a 3 semaines, Emmanuel Macron avait évoqué leur possible réouverture, mais c'était à la condition que le nombre de cas positifs chaque jour passe sous la barre des 5000, un objectif qui n'a pas été atteint.
Car hier, si les autorités recensaient un peu plus de 3000 nouveaux cas de Covid-19, bien en dessous de ces derniers jours, rappelons qu'il y a toujours moins de tests le week-end et donc potentiellement plus de cas dans les jours à venir. Les tests, justement, le conseil scientifique les conseille avant les fêtes pour pouvoir les passer en famille. Il évoque également un auto-confinement pendant une semaine avant les soirées de réveillon. C'est à cause d'un confinement forcé que le monde de la culture se mobilise aujourd'hui et se déconfine. Du moins dans la rue. Manifestations annoncées à Nantes, Lyon ou Marseille, à Paris également. Une douzaine de rassemblements au total sont prévus et organisés par la CGT Spectacle. Les professionnels protestent toujours contre la fermeture des lieux de spectacle, au moins jusqu'au 7 janvier. Parmi eux, il y a Nicolas Dubourg. Il est directeur du théâtre La Vignette à Montpellier et président du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Le 7 janvier, dit-il, c'est trop loin.
C'est interminable. Et puis encore une fois, je crois que la difficulté, c'est cette espèce d'incertitude. C'est-à-dire que là, on était à 3 jours d'une annonce. On sent que ça commence à se tendre. Et puis d'un coup, on nous dit c'est trop tard, ce sera plus tard. Et puis on nous dit que le 7 janvier qui est annoncé n'est pas une date de réouverture, mais une date de revoyure. C'est le terme maintenant maudit. La revoyure, on sait tous ce que ça veut dire. Ça veut dire que le 7 janvier, on nous dira que c'est pas le 7 janvier, mais que ce sera certainement plus tard. Donc c'est vraiment un découragement. Il faut imaginer qu'il y a des personnes aujourd'hui qui avaient travaillé depuis 3 semaines pour revendre des billets, contacter les spectateurs, leur dire voilà comment ça va se passer. Et là, patatras, il faut rappeler tout le monde, tout annuler pour la 3e fois la même année. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le découragement que ça fait par rapport au travail, au sens même que cela donne de son propre travail. Peut-être que la 1ère fois, ça passe. La 2e fois, c'est plus dur. Au bout de la 3e fois, il y a vraiment une difficulté psychologique énorme à remettre des gens au travail dans des conditions d'incertitude. Ça, c'est pas possible que ça dure. On ne minimise pas la crise, on ne minimise pas la dangerosité du virus. Ce qu'on dit, c'est qu'on a travaillé à des protocoles extrêmement précis Donc il faut juste les mettre en œuvre et nous laisser travailler.
Nicolas Dubourg au micro d'Anne Lamotte de France Culture. Anne Lamotte que nous retrouverons pour le journal de midi et demi aujourd'hui. Reportage dans la manifestation parisienne et discussion avec les participants. Un référendum pour inscrire la lutte pour le climat dans la Constitution française. Emmanuel Macron l'a annoncé hier lors de sa rencontre avec la Convention citoyenne pour le climat. Le président de la République donnera le choix aux Français, mais il faudra pour cela que l'idée de la réforme constitutionnelle soit adoptée par le Parlement. Verbatim de ce qu'a dit le chef de l'État hier et réaction des écologistes et de l'opposition dans le journal de 7 heures dans moins d'une demi-heure, car certains, sachez-le, y voient déjà une manœuvre politique trop facile à un peu plus d'un an de la présidentielle. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est donnée 2 jours pour délibérer dans le procès des attentats de janvier 2015. Hier, la parole était donnée aux dernières plaidoiries, aux derniers accusés présents, 11 accusés présents depuis 3 semaines. Ils comparaissaient libres pour la plupart, répétant hier encore leur compassion à l'égard des victimes et surtout leur innocence. Verdict donc demain après-midi. Dans les rangs de la défense, l'avocate Margot Pouliez redoute qu'il ne soit dominé ce verdict par la peur.
Je crains que la justice se trompe et l'association de malfaiteurs terroristes donne le moyen à la justice de se tromper parce que cette infraction est mal définie. Et je crois que par la peur, je crois que par le chagrin, on peut s'éloigner rapidement des faits qui sont reprochés aux accusés. Je pense que le risque, c'est de chercher à rendre un délibéré qui soit exemplaire. Et je me méfie beaucoup de l'exemplarité parce que ça signifie qu'on cherche à donner une réponse à l'opinion publique. Et l'opinion publique est terrifiée, l'opinion publique en peut plus de l'islamisme, n'en peut plus des attentats. Donc quand on juge des gens qui sont renvoyés pour des attentats, forcément le risque c'est qu'ils prennent pour d'autres. C'est très difficile de garder de la clairvoyance pour juger de manière sereine. Dans ces dossiers-là, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour juger de manière sereine et rationnelle en réalité. Avoir suffisamment la tête froide pour ne regarder que le dossier, pour se concentrer sur les hommes que l'on juge et puis pour dire que en définitive, finalement, peut-être que nous n'aurons pas les personnes qui ont revendu les armes aux frères Kouachi.
Des propos recueillis hier par Florence Thurme pour France Culture à la fin donc de ce procès. Verdict attendu demain. Bruxelles s'attaque aux géants du numérique. Télétravail, visioconférence, achats sur Internet, cours en ligne. La crise sanitaire a encore renforcé la place du numérique dans nos vies quotidiennes et la détermination de la Commission à mieux réguler ses plateformes. On pense à Google, Amazon ou Facebook. Aujourd'hui donc, la Commission européenne présente un arsenal législatif pour imposer à ces plateformes des obligations de contrôle des contenus, Angélique Bois.
Si les lois actuelles suffisaient pour freiner les appétits des géants de l'Internet, cela se saurait, souligne un diplomate. La Commission veut donc repeindre sa législation de la cave au grenier. Objectif affiché, mieux encadrer les plus grosses plateformes et permettre à de plus petites, européennes bien sûr, de se faire de la place. En imposant d'abord plus de transparence sur les algorithmes qu'elles utilisent pour prospérer et en interdisant certaines pratiques bien rodées. Amazon, qui vend par exemple des produits fabriqués par nos PME, qui siphonnent ensuite les données des acheteurs, leurs préférences, leurs critiques, pour pousser ses propres produits. La Commission veut aussi faire un gros ménage sur les sites en ligne où prospère la contrefaçon et imposer plus de réactivité aux plateformes pour lutter contre les contenus illicites comme la haine en ligne. Le texte prévoit de les contraindre à recruter un minimum de modérateurs qui maîtrisent toutes les langues européennes. Chez Facebook, dans certains pays de l'Est, ils ne sont qu'une poignée. Un vaste catalogue associé à des sanctions beaucoup plus dissuasives qu'aujourd'hui. Chez les GAFA, l'argent coule à flot, les milliards d'amendes pour pratiques anticoncurrentielles imposées parfois après des années d'enquête ne suffisent plus. La Commission veut donc taper beaucoup plus fort. Selon plusieurs sources, le montant des amendes pourra atteindre 10% du chiffre d'affaires et en cas de manquements graves et répétés, les entreprises concernées pourraient être en partie démantelées. On interdirait par exemple à Google sur le marché européen de coupler son moteur de recherche avec ses propres intérêts. Une mesure bazooka que les lobbies ne manqueront pas d'attaquer.
Angélique Bois pour France Culture. Il appelle les États-Unis à tourner la page. Joe Biden occupera bel et bien la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Sa victoire à la présidentielle est confirmée depuis hier soir par le collège électoral dans le pays. Penchons-nous à présent sur une enquête journalistique. Enquête conjointe réalisée par le site d'information Bellingcat, par CNN, le magazine allemand Der Spiegel et le site russe The Insider. Cette enquête impute directement l'empoisonnement d'Alexei Navalny au FSB. Ces médias auraient identifié les agents qui suivent les déplacements de l'opposant russe depuis 3 ans, Jean-Didier Revoy.
En décryptant des milliers de données téléphoniques et en les couplant avec des listes de passagers, les enquêteurs sont parvenus à identifier 8 agents du FSB, le successeur du KGB, qui seraient impliqués dans la tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny. De la même manière, il conclut que l'opposant est sous une surveillance des services russes quasi permanente depuis 2017. Des informations que les plus hautes sphères de l'État russe n'ont pour l'instant pas commentées, mais qui ont interpellé certains responsables politiques de second rang. C'est le cas d'un député du parti libéral Yabloko, qui siège au Parlement de la ville de Saint-Pétersbourg. Il a annoncé qu'avec un groupe de députés, ils allaient, mercredi, saisir la commission d'enquête russe pour tentative de meurtre sur une personnalité publique. Reste à savoir maintenant quelle sera la marge de manœuvre de cette commission. Vendredi dernier, interpellé par le Conseil russe des droits de l'homme sur le cas d'Alexei Navalny, Vladimir Poutine avait souligné qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments dans ce dossier pour ouvrir une enquête pénale.
Et sachez que Camille Manière reviendra sur cette enquête plus longuement dans sa revue de presse internationale à 7h35. À 6h40, c'est le temps pour moi de vous donner quelques mots de météo. Encore de la pluie fine ce mardi sur l'ensemble du pays, mais des températures douces entre 5 et 13 degrés du nord au sud. Et à 6h40 maintenant, c'est l'heure du journal des idées. C'est avec vous, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il y a 100 ans, du 25 au 30 décembre 1920, se tenait Jacques le congrès de Tours. Il va structurer pour longtemps la vie politique à gauche, mais pas seulement, en France et dans les colonies.
Oui, comme le souligne l'édito de la revue Le Mouvement Social, le 18e congrès de la section française de l'Internationale Ouvrière, SFIO, s'il est bien un moment de rupture, maintient aussi de fortes continuités. Le parti reste socialiste, passant de l'affiliation à l'Internationale Ouvrière à l'adhésion à l'Internationale Communiste, même si l'une des conditions pour rejoindre l'organisation dominée par les bolcheviks était de changer de nom, ce qui ne sera pas voté. Et ce n'est qu'en 1921 que naîtra le Parti communiste. Les débats ont opposé un courant majoritaire favorable à la révolution russe et celui représenté par Léon Blum. La Grande Guerre et la politique de l'union sacrée à laquelle les socialistes réformistes s'étaient ralliés, rejetés par les congressistes au nom de l'internationalisme, a joué un rôle central. C'est l'axe développé par le dossier de la revue, à la fois en amont, avec les naissances plurielles, syndicales, municipales ou militantes du communisme en France, mais aussi dans les colonies, où l'internationalisme a tiré les conséquences du caractère impérialiste du conflit mondial pour adopter une perspective anticoloniale et anti-impérialiste, notamment en Algérie et en Tunisie. Le facteur Grande Guerre est également très présent dans l'article de Frédéric Genevet, publié dans le hors-série de l'Humanité consacré au congrès de Tours. La troisième internationale s'organise autour des rencontres entre militants socialistes, syndicalistes ou libertaires de différents pays d'Europe, réunis par une commune dénonciation du conflit mondial. L'historien évoque les trois motions en présence au congrès de Tours, celle de Marcel Cachin, le directeur de l'Humanité, et Louis-Oscar Frossard, secrétaire général du Parti Socialiste, ou encore Boris Souvarine, proposait un ralliement à l'international, celle de Jean Longuet, petit-fils de Marx et de ses amis qui défendaient la révolution russe mais refusaient d'adhérer totalement à l'international communiste et s'accommoder de la deuxième internationale socialiste, et puis celle de Léon Blum qui combattait toute adhésion au nom de la tradition socialiste et de la conception démocratique du parti. C'est la première motion qui fut largement majoritaire, notamment, souligne Frédéric Genevet, du fait qu'elle s'était ancrée dans la réalité vécue des militants et commençant par la référence aux 4 années de massacre mondial. L'autre aspect du poids de la guerre dans le déroulement du congrès de Tours concerne évidemment le rôle de la Russie soviétique, à la fois comme modèle et comme force de pression. L'avancée de l'armée rouge en Pologne pouvait laisser présager une victoire du communisme jusqu'à Berlin et au-delà dans toute l'Europe, et la pression idéologique du parti de Lénine et Trotsky s'est notamment illustrée dans les 21 conditions d'adhésion à l'international communiste imposées aux congressistes. Comme le rappelle Dominique Collat sur le site AOC, certains socialistes français dénoncent cette logique, en particulier avec Blum et ses amis, l'anthropologue Marcel Mauss, neveu et collaborateur de Durkheim, et l'un des fondateurs de l'Humanité, qui refuse l'identification du peuple et de la révolution russe avec le parti de Lénine. Les 21 conditions s'avèrent en effet drastiques. Lénine les justifie qualifie ainsi, je cite, « dans la période actuelle de guerre civile exacerbée, un parti communiste ne saurait faire son devoir que s'il est organisé de la manière la plus centralisée, s'il y règne une discipline de fer confinante à la discipline militaire, et si son organisme central est puissant, nanti de pouvoirs étendus et jouissant d'une autorité morale et de la confiance de ses membres. Une confiance gagnée à coup d'exclusion, voire d'épuration. Le mot revient partout, même en français, sous la plume de Lénine. Il faut des épurations régulières pour chasser les éléments petits bourgeois, réformistes ou démocratiques, un vocable honni. Si bien que le congrès de Tours ne fut pas, dans la logique de l'internationale, une scission, mais une épuration. Si le gauchisme est la maladie infantile du communisme, l'épuration sera celle de son âge adulte. Reste le rôle éminent politique, social et culturel joué dans notre histoire par les partis issus du congrès de Tours. L'hebdomadaire Marianne rend hommage à celui qui revient au Parti communiste français. Sans lui, rappelle Jacques Dion, notre modèle social ne serait pas ce qu'il est. Quand la révolution rimait avec émancipation, le parti a contribué à écrire quelques belles pages du roman national. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Au sommaire aujourd'hui, la Centrafrique, comment organise-t-on des élections dans un État en faillite?
Oui, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 27 décembre. La campagne a donc commencé samedi dans ce pays encore meurtri par 7 années de guerre civile, toujours malmené par les groupes armés rebelles et affecté par l'épidémie de coronavirus. En ce qui concerne la présidentielle, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, est donné grand favori, d'autant que la commission électorale a invalidé la candidature de son principal adversaire, François Bozizé, renversé en 2013 par le coup d'État de la Séléka, la coalition à majorité musulmane. La Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec une administration moribonde, survivant avec une aide extérieure mal utilisée. Alors comment organise-t-on une élection dans un État failli? Bonjour Thierry Vercoulon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé au Centrafrique subsaharienne de l'IFRI. Pour commencer, comment se passe la campagne? Les candidats sont-ils nombreux, en particulier pour les législatives? Est-ce que la campagne peut se jouer sur tout le territoire centrafricain?
Bien, la campagne vient de commencer. Elle ne peut pas se jouer sur tout le territoire centrafricain, puisque 70% de ce territoire est contrôlé par les groupes armés et surtout il n'y a quasiment aucune route en Centrafrique et circuler dans le pays est extrêmement compliqué. Donc c'est les conditions à la fois matérielles et sécuritaires pour faire une campagne électorale sont très réduites.
Ça a toujours été comme ça dans les 20-30 dernières années en Centrafrique, pour organiser des législatives, à chaque fois on valide des législatives avec un parlement, une assemblée qui ne représente pas tout le territoire.
Non, ça s'est évidemment aggravé avec le conflit qui a commencé en 2013. Il y a eu d'autres péripéties dans l'histoire centrafricaine, mais disons que c'est depuis 2013 qu'il y a eu cette épidémie de groupes armés et de milices en Centrafrique.
Il a fallu aussi enregistrer les électeurs et ça a pris du retard. Pourquoi? Quels ont été les problèmes? Est-ce que ça se joue à l'échelle locale ou nationale?
Oui, il y a toujours des problèmes. Justement, comme je disais, les conditions matérielles sont très compliquées. Par conséquent, il est fréquent qu'il y ait des problèmes de délai pour l'enrôlement des électeurs. Il y a des vraies difficultés, de profondes difficultés matérielles à capturer en quelque sorte l'électorat en zone rurale. Par conséquent, il y a beaucoup de villages où les gens ne peuvent pas s'enregistrer pour des raisons tout à fait matérielles, bon, si parfois sécuritaires, mais d'abord matérielles. Et du coup, il y a toute une partie de l'électorat rural qui est en règle générale hors-jeu à chaque élection.
Entre parenthèses, il y a un an ou deux, le gouvernement avait attribué de gré à gré à une société le contrat de fabrication des cartes d'identité. Et on s'était rendu compte que cette société avait des accointances avec Al-Qaïda. C'est cette société qui a fait les cartes d'identité pour ceux qui voulaient s'inscrire sur les listes électorales?
Bah ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée à l'heure actuelle.
Et il faut aussi faire voter les centrafricains réfugiés dans les pays voisins. Ça représente combien de personnes? Est-ce qu'ils vont voter cette année?
Non. Justement, c'est la particularité par rapport au précédent scrutin, c'est que le gouvernement a décidé de ne pas les faire voter. Et donc a décidé de faire reculer le droit de vote. Il y a à peu près 600 000 réfugiés, ce qui est à peu près le même nombre que lors des dernières élections. À cette époque, ils avaient eu le droit de vote, et cette fois-ci, le gouvernement a décidé de les en priver. Alors il y a eu le HCR et quelques autres organisations ont essayé de le convaincre de faire autrement. Mais il a préféré acter un recul du droit de vote maintenant, tout en bénéficiant pour cette élection d'une aide financière massive de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui paye, grosso modo, l'élection à venir, comme la précédente d'ailleurs.
Oui, une élection qui coûte cher. L'Union européenne, vous étiez venu dans les enjeux internationaux, Thierry Vircoulon, nous dire que l'Union européenne finançait une grande partie de l'État centrafricain et avait en quelque sorte pris la place de la France là-dessus, en payant des assistants techniques pour faire fonctionner les administrations, en rémunérant aussi les fonctionnaires et l'appareil judiciaire. Donc c'est pour, entre guillemets, est-ce que c'est pour faire plaisir à l'Union européenne que la Centrafrique organise des élections, alors qu'à vous entendre, on entend bien qu'elle n'est pas prête à le faire?
Non, c'est le gouvernement organise des élections parce que ça fait partie de c'est la constitution qui le dit. Et puis le président sortant, comme vous le disiez au début, a de fortes chances de remporter cette élection. Il souhaite d'ailleurs le faire au premier tour. Et voilà pourquoi ils organisent ces élections. Le fait que ça soit payé par l'Union européenne n'est que la cerise sur le gâteau.
Avec des subsides de la Banque mondiale, on sait combien elle verse spécifiquement pour les élections, combien elle verse en tout et combien elle verse spécifiquement pour les élections?
L'Union européenne, je pense, a fait une contribution de 40 millions d'euros, peut-être plus. Mais enfin, c'est approximativement dans ces chiffres-là. Et puis il y a aussi, il faut le dire, des experts internationaux qui vont aider à la machinerie électorale. L'ONU aussi est fortement impliquée. Il y a un accompagnement politique, puisque le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale a rencontré récemment l'ex-candidat et ex-président François Bozizé pour le dissuader. Il a été invalidé par la Cour constitutionnelle et il l'a rencontré pour le dissuader d'organiser une rébellion, un putsch avant les élections. Et donc, il y a, en plus d'un accompagnement financier, un accompagnement politique, et il y a aussi l'achat du consentement des groupes armés.
L'achat du consentement des groupes armés qui avaient en 2019 signé un accord, l'accord de Khartoum, qui stipulait justement qu'ils participeraient à un gouvernement, et non pas un parlement, mais un gouvernement inclusif. La Cour constitutionnelle de Centrafrique, elle a invalidé beaucoup de candidatures de certains membres de ces groupes armés. Ce sont des candidats qui se présentaient en leur nom propre ou au nom des groupes armés. Et est-ce qu'il s'agit de groupes armés qui avaient signé cet accord de Khartoum?
Oui, certains d'entre eux avaient signé l'accord de Khartoum et ont retrouvé vous le dites, des membres de groupes armés comme candidats aux élections législatives. Bon, la Cour constitutionnelle a nettoyé la liste. J'espère qu'elle n'en a pas oublié, mais elle en a évacué en effet un certain nombre. N'empêche qu'ils auront toujours comme ils contrôlent 70% du territoire, ils auront une capacité d'influence, soit pour bloquer certaines campagnes électorales sur le terrain, ou même intimider les électeurs. Et donc, on voit qu'ils font partie un peu du paysage, enfin pas un peu, ils font beaucoup partie du paysage électoral, malheureusement.
J'espère qu'elle n'en a pas oublié, avez-vous dit, Thierry Vircoulon, au sujet de la Cour constitutionnelle qui a donc invalidé des candidatures de candidats de groupes armés. Ça a été salué quand même, cette décision de la Cour constitutionnelle. C'est une façon de dire le droit. Est-ce que ça veut dire que même dans cet état failli, la Cour constitutionnelle fonctionne et certaines institutions fonctionnent?
Oui, alors elle a eu une décision qui est plus controversée, qui est celle d'avoir invalidé l'ex-président Bozizé. D'ailleurs, certains se demandent si les deux décisions ne sont pas liées. L'ex-président Bozizé était le principal challenger du président sortant. Donc certains considèrent que la Cour constitutionnelle a déjà fait l'élection, en tout cas une grande partie de l'élection. Et donc on voit qu'il y a quand même une partie de la machinerie électorale qui est fortement sous l'influence du gouvernement. Et c'est surtout, alors peut-être moins la Cour constitutionnelle que l'autorité nationale des élections, où là, il y a quand même des indices très forts d'une influence gouvernementale.
Alors, quel rôle va jouer ou compte jouer la société civile dans cette élection qui porte un désir de changement, mais pour en faire quoi ? Quelle place on lui donne, notamment à cette plateforme Ezingo Biani, qui réunit des personnalités de la société civile et des politiques, dont vous nous aviez dit, Thierry Vircoulon, que c'était elle la véritable opposition en Centrafrique. Quelle place peut-elle prendre ?
Bon, elle s'est beaucoup essoufflée depuis quelques mois. On en entend de moins en moins parler, en fait, et on sent bien qu'il n'y a pas de mobilisation populaire très forte.
Pour conclure, Thierry Vircoulon, vous nous racontiez l'année dernière comment des hommes d'affaires peu recommandables, nous aviez-vous dit, hantaient les couloirs du gouvernement. Est-ce qu'on a d'ores et déjà noté des interférences entre les milieux d'affaires et ces élections en Centrafrique ?
Non, écoutez, pas. C'est surtout ce qu'on a vu, c'est surtout les discussions et les allers-retours de chefs de groupe armé à Bangui, une discussion avec le gouvernement qui sont évidemment très très préoccupantes et qui, comme je le disais tout à l'heure, montrent que le gouvernement achète le consentement des groupes armés pour cette élection et probablement leur soutien dans les zones qu'ils dirigent. Et on voit bien que ce sont des élections qui ont lieu dans un contexte qui ne s'y prête pas et qui serait jugé tout à fait inapproprié si c'était évidemment dans notre partie du monde. Mais on organise ces élections pour et le 27 décembre, surtout pour maintenir le narratif de la stabilisation et que finalement les choses s'arrangent en Centrafrique, même si ce n'est évidemment pas le cas.
Merci beaucoup Thierry Vircoulon d'être venu nous en parler ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Mais à quoi ressemble donc l'univers des romans SF de l'écrivain Philippe K. Dick ?
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Eh bien, on y trouve des singes qui prédisent l'avenir, des robots qui ont tout pour être humains ou des virus qui empêchent les gens de se voir. Ah non, pardon, ça, j'ai dû le lire dans la presse. Toujours est-il que de Philippe K. Dick, eh bien, nous parlons dès lundi dans la compagnie des œuvres.
Du lundi au jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Il est 6h57, vous écoutez France Culture. Bonjour Guillaume Herner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Allons bon Guillaume, votre fille de 7 ans veut devenir influenceuse.
Ben oui, alors vous savez Julie, je suis suffisamment détrompé pour savoir ce que l'on fait. On le fait d'abord pour emmerder ses parents. Hein. Combien connaissons-nous d'enfants de partousards devenus jansénistes, de fils de gauchistes engagés dans le trading haute fréquence. Bref, à ce compte-là, au vu de l'éducation que nous avons vainement tenté de lui donner, sa mère et moi, il était normal que ma fille veuille devenir influenceuse. Vous savez, ce métier, je précise, hein, pour tous ceux dont les enfants sont normaux, avocats ou gangsters, je veux dire ce métier qui consiste à passer sa vie sur les réseaux sociaux pour peser sur ses contemporains, tester des cosmétiques sur Instagram ou faire des chorégraphies sur TikTok, principalement constituées de V avec les doigts. Vous savez, des V avec des mouvements syncopés des mains. Mais me faire ça à moi, vouloir devenir Léna Situation, une célèbre influenceuse, aujourd'hui à la tête des ventes de livres en France, France alors que je comptais sur ma fille pour devenir, je sais pas moi, Léla Slimani, Hervé Le Tellier? Pourquoi ma fille veut-elle devenir influenceuse alors que nous l'avions programmée pour être physicienne ou violoncelliste? Et puis finalement, je me suis rassuré en lisant le dernier livre d'Axel Honneth sur la reconnaissance, sociologue et philosophe allemand, ultime représentant de l'école de Francfort pour qui la modernité est marquée par la lutte pour la reconnaissance, le choc des égos et de l'amour propre. L'estime de soi, explique-t-il, est une quête qui vient de l'extérieur, qui vient des autres, et si l'on veut s'aimer, eh bien il faut être aimé aujourd'hui. Un mouvement particulièrement en cours dans les cours de récréation, la première marche du podium est occupée, d'après ce que j'ai pu comprendre, par les populaires. Les populaires, vous le savez Julie, sont populaires pour leur popularité, tandis que la dernière marche, le lumpen prolétariat de la récré, est essentiellement constitué de ce qu'on appelle des intellos. Honneth explique comment notre monde est entré dans la civilisation de l'amour propre, et c'est ainsi que la Rochefoucauld expliquait des choses sur la cour de Versailles, et désormais ça s'applique à la cour de récréation.